Ici, la voix de la librairie Québec, Catherine Doré au micro. Bonsoir, bienvenue à cette émission enregistrée à la librairie Saint-Jean-Baptiste à Québec. Nous commençons ce soir la troisième saison de l'émission avec une bonne nouvelle. Nous serons désormais diffusés à CKIA le mardi à 15h30. Donc, bienvenue aux auditeurs de CKIA qui se joignent à ceux de Radio Fiat Lux. Alors, je vais prendre quelques secondes pour vous expliquer le fonctionnement de la diffusion de l'émission. L'émission est enregistrée une fois par mois, le premier lundi du mois, à la librairie Saint-Jean-Baptiste, et elle est diffusée normalement le lendemain à CKIA. Et bien sûr, elle demeure disponible en podcast sur le site de Radio Fiat Lux, sur lequel nous diffusons en direct, soit au moment de l'enregistrement. Alors, pour faire une histoire simple, sur Radio Fiat Lux, l'émission est diffusée, enregistrée une fois par mois et rediffusée ensuite tous les lundis durant le mois. À CKIA, elle est diffusée normalement le lendemain de l'enregistrement. Et aux deux semaines, et la deuxième fois dans le mois, c'est une rediffusion d'une émission qui a été enregistrée dans nos saisons antérieures. J'espère que c'est clair. On vous répétera ça en cours de saison pour vous expliquer, réexpliquer tout ça. Donc, à l'émission ce soir, nous aurons deux sujets. On va parler des projets de colonisation extraterrestre qui semblent revenir dans l'actualité après, je dirais, quelques années d'oubli. Simon, l'astrophysicien de la librairie, fera le point sur cette question. Ça, c'est pour la fin de l'émission. D'abord, je vais vous parler de Hannah Arendt, du film qui vient de sortir sur elle et de sa théorie sur la banalité du mal en compagnie de Émile Grigorov, qui est professeur de philosophie. Et il va nous parler aussi du fils de Adolf Eichmann. Alors, on va commencer par faire une pause musicale, le temps de laisser Émile s'installer, et nous entrerons dans le vif du sujet au retour de la pause. Pour se mettre dans l'ambiance, on va écouter la musique thème du film « La liste de Schindler », composée, je crois, par John Williams. À tout de suite. Thank you. Cet été, le film Hannah Arendt de Margaret von Trotta est sorti sur nos écrans. Moi, je suis allée le voir au CLAP. On y parle d'un épisode très précis de la vie de Hannah Arendt. Hannah Arendt, c'est une juive allemande née en 1906 et qui a étudié avec Martin Heidegger. Elle a fui l'Allemagne durant la montée du nazisme en 1903. Après un séjour en France, elle a émigré aux États-Unis où elle a trouvé un poste de professeur de philosophie dans une université américaine. Le film débute en 1961. À ce moment-là, Hannah Arendt est une philosophe reconnue et un professeur respecté. Adolf Eichmann, criminel de guerre nazi, est capturé en Argentine. Il est envoyé à Jérusalem pour y subir donc un procès. Là, Hannah Arendt décide d'aller assister à ce procès et elle part donc pour Jérusalem. Alors, durant le procès, en écoutant les réponses de Adolf Eichmann, elle se dit « Mon Dieu, c'est incroyable, cet homme-là ne semble pas du tout conscient de la gravité de ses gestes. » Et non seulement il n'est pas conscient de ce qu'il fait, mais il s'excuse en disant « Mais moi, j'ai fait que mon travail. » Et donc, c'est durant ce procès que Hannah Arendt imagine une théorie qu'elle nomme « la banalité du mal ». Pour vous résumer ça rapidement, parce qu'on va l'expliquer davantage avec Émile tout à l'heure, la banalité du mal, c'est le mal qui est fait par des individus qui sont de simples exécutants à l'intérieur d'une bureaucratie ou d'un régime totalitaire. Ce sont des gens qui obéissent à des ordres que normalement tout individu constitué refuserait d'exécuter. Mais ils le font quand même parce qu'ils ne pensent pas. Ils ne réfléchissent pas à l'horreur de leurs actes. Pour citer Hannah Arendt, elle dit que l'incapacité de ces hommes à penser est un genre de manque d'imagination qui les empêche de se mettre à la place de leurs victimes et donc d'éprouver de la pitié pour elles. Donc, cette théorie de la banalité du mal a été exposée dans 3 articles qui ont été publiés dans le New Yorker et qui ont ensuite été édités en livre et intitulés « Eichmann à Jérusalem, étude sur la banalité du mal ». Lorsque ça a été publié, donc je pense en 62 ou en 63, le procès ayant lieu en 61, ça a été très, très, très durement critiqué, ça a été très mal reçu par différentes communautés, par les communautés juives, entre autres. Certains ont dit que le concept de la banalité du mal est parmi les plus controversés du 20e siècle. Bonsoir, Émile.
Bonsoir, Catherine.
Donc, je viens de dire que les 3 articles de Hannah Arendt ont été publiés dans le New Yorker et... Le fils d'Eichmann, c'est ce dont vous allez nous parler, parce que moi, c'est une partie de l'épisode qui n'est pas présentée dans le film et que je ne connais pas très bien. Le fils d'Eichmann a réagi à ce procès aussi.
Oui, il a réagi. Il était très jeune d'ailleurs, Klaus Eichmann, en disant publiquement que, en fait, le verdict était injuste, puisque son père ne faisait notamment qu'exécuter des ordres, et puisque tout ce qu'il a fait était parfaitement légal.
Et le verdict, c'est un verdict de mort. Il a été condamné à mort, n'est-ce pas?
Puis il a été pendu.
D'accord. Est-ce que le fils de Eichmann a fait valoir, c'est qu'il n'avait pas enfreint la loi?
Absolument. Absolument, c'est ce qu'il disait. Premièrement, il trouvait injuste le fait que Eichmann lui-même il a été enlevé.
Oui.
Deuxièmement, qu'il a été jugé suivant des lois qui ont été d'un autre État, l'État d'Israël, qui n'existait même pas pendant la guerre.
Oui, en effet.
Et que selon les lois du Troisième Reich et surtout selon les lois de la guerre, il agissait de façon tout à fait légale. Donc, il n'a pas commis un crime.
Voilà.
Ce n'était pas un criminel de guerre.
Voilà.
Ça
me semble discutable.
Oui.
Mais ça me semble discutable.
Hannah Arendt, elle aussi, son livre, il a été mal reçu par la communauté juive à travers le monde, non pas pour à cause de la théorie de la banalité du mal, mais pour deux autres raisons.
Oui.
Premièrement, parce que elle croyait que il a fallu juger Eichmann non pas comme pour des crimes contre le peuple juif, mais pour des crimes contre l'humanité. Oui. Et deuxièmement, parce que elle a révélé, en oui. fait, le fait que les conseils juifs collaboraient avec les nazis.
Et ça, c'est mentionné d'ailleurs dans le film.
Oui.
Qu'elle souligne le fait que certains leaders des communautés juives ont collaboré pour donner des noms et pour...
Oui, absolument. Il y a des preuves historiques.
C'est véridique, ça?
Oui. Bon, ils ont... disons que eux, ils n'avaient pas le choix.
Oui.
Ils n'avaient pas le choix. Et ils collaboraient consciemment. Dans le but de sauver, peut-être, en sacrifiant un certain nombre.
Oui. Mais on peut se demander jusqu'à quel point les bureaucrates allemands avaient le choix aussi.
C'est ça la question. Et je pense qu'il n'y a pas de réponse claire, il n'y a pas même de réponse, je dirais, achevée dans le livre de Hannah Arendt.
Tout à fait.
La réponse, elle a été donnée par son premier époux, d'ailleurs, Günther Stern ou Günther Anders. Son vrai nom était Günther Stern. C'est un penseur, journaliste, qui était, je dirais, dans les marges de l'école de Francfort. Il n'a jamais été reconnu comme un grand penseur.
Mm-hmm.
Et lui-même, il tenait d'être dans les marges de la vie intellectuelle en Allemagne. Il a refusé, je pense, à deux reprises des postes à l'université.
Ah oui.
Oui, ça ne l'intéressait pas parce que il y a beaucoup de bureaucratie à l'université également.
Oui, oui. Je m'en rends compte ces temps-ci, justement. Je fais un retour à l'université, je suis confrontée à ça.
C'est oui. ça. Et Il en 1964, il a répondu à Klaus Eichmann,
le fils d'Adolf
Eichmann, et il lui a démontré que quand même, il a démontré à toute l'humanité en fait que quand même les bureaucrates allemands avaient un choix.
Ah.
Oui. Bon. Devant le la monstruosité du monde technique, là où on n'est que des pièces dans une machine, mm-hmm. faisant partie d'une machine,
mm-hmm.
il y a deux possibilités d'action devant nous, nous dit Anders. La première, c'est celle de Eichmann et de tous les bureaucrates. C'est le chemin du cynisme, en fait, en disant, de toute façon, je ne comprends pas qu'est-ce qui
ouais,
se passe.
Ouais.
Je ne connais pas la finalité de cette entreprise dont je fais partie, disons, la solution finale de la question juive. Alors, on ne peut pas me reprocher de vouloir détruire, par exemple, moi-même, les Juifs. Je fais mon travail, c'est ouais. tout.
Mais il y a en même temps un refus de réfléchir.
Oui.
Aux conséquences.
Oui. Mais Günther Anders, il va encore plus loin. Il nous dit, il y a comme une impossibilité de réfléchir sur les conséquences parce que nous ne connaissons pas le tout de cette entreprise. Nous ne connaissons mmh. pas la finalité. Parce que l'action morale authentique, depuis, bon, c'est Kant qui a décrit très bien la structure de cette action, c'est quand tu te mets, quand tu es capable de donner lieu à une séquence d'événements, de donner le début, de se mettre au début d'une chaîne d'événements. Et dans le monde technique ou de la technique, on est toujours au milieu d'une chaîne. On est conditionné par des événements et on ne connaît pas la finalité de ce qu'on fait, de ce à quoi on participe. Alors, c'est ça le monstrueux, selon Anders. La monstruosité de ce monde.
La grosseur du système.
La grosseur, il nous dit, il nous manque d'imagination. C'est une question...
De manque d'imagination. C'est ce que disait aussi Anna Arendt dans sa théorie, oui.
Et là, quand même, on peut agir de façon, disons, décente, de façon moralement digne. Là, j'ai mentionné la façon de réfléchir puis d'agir du bureaucrate. Mm-hmm. Et puis il dit, l'alternative est la suivante, et je cite, « Je ne décèle pas du tout le monstrueux. À cause du décalage, je ne suis pas du tout à même de le déceler. Donc, on ne peut pas du tout m'imputer quoi que ce soit. Donc, je peux tout à fait accomplir le monstrueux, c'est Eichmann.
Ouais.
Et l'alternative, je ne vois pas du tout devant moi les millions que je fais gazer. Je ne peux pas du tout voir devant moi. Donc, je peux facilement les faire gazer. Et c'est la façon de raisonner de Eichmann, même si lui-même, il n'a jamais gazé qui que ce soit.
Non, tout à fait. C'était vraiment un rouage.
L'alternative qui m'a beaucoup marqué quand j'ai lu ce livre, c'est « Je ne décèle pas le monstrueux, mais notamment parce que je ne comprends pas ce qui se passe, je refuse de collaborer.
Oui, oui.
Je refuse de collaborer ou même je m'oppose à l'entreprise
si
en général.
Si je ne comprends pas ce qui se passe.
Donc, je résiste. Oui. C'est la seule façon de résister au monde monstrueux, de ne pas collaborer avec.
Anna Arendt suggérait aussi une autre manière, c'était de développer ce qu'elle appelait la pensée. La disposition, ce qu'elle appelle la disposition à vivre explicitement avec soi, à avoir une relation avec soi, c'est-à-dire être engagé dans ce dialogue silencieux entre moi et moi-même, un peu comme le professeur Socrate aussi et Platon, ce qu'on appelle en général penser, réfléchir, quoi.
Oui, c'est ça. C'est toute une tradition de la philosophie, toute la tradition de la philosophie occidentale. Depuis Socrate et Platon, en passant par Descartes, Kant, etc.
Voilà.
Elle essaie de distinguer la connaissance de la pensée. La connaissance, c'est quand on dévoile, disons, quand on essaie de comprendre le monde. Alors que la pensée, c'est notamment ce dialogue entre moi et moi-même.
Oui.
C'est-à-dire, la vraie pensée, c'est une pensée livrée à elle-même. Et donc, dans ce dialogue-là, on peut arriver à une solution autre que celle du bureaucrate, une perspective d'action autre que celle du bureaucrate. Et je m'oppose, je résiste.
Il y a aussi l'idée de l'obéissance qui revenait beaucoup chez Eichmann et qui revient chez la plupart des gens qui se permettent de faire des gestes criminels dans une organisation aussi. Et ce que Anna Arendt disait, c'est qu'un adulte n'obéit pas. Un adulte consent. C'est l'enfant qui obéit. Et si un adulte obéit, en réalité, il soutient l'organisation et l'autorité ou la loi à laquelle il prétend obéir. Il adhère finalement.
Oui.
Un adulte ne peut pas dire, ben moi, j'obéissais, je le faisais. On n'a pas le droit d'obéir. Comprenez-vous ce que je veux dire?
Dans quel sens on n'a pas le droit d'obéir?
On n'a pas le droit d'obéir sans remettre en question l'ordre. Sans
le droit moral.
Oui, c'est
ça. Oui, parce que...
C'est ça, on doit se questionner sur l'acte qu'on pose.
Oui, oui, au point de vue moral, oui. Sinon, le système nous force à obéir. Donc, la conclusion logique, c'est que la morale, pour suivre la, disons, la voie de la morale, il faut s'opposer au système. Et pendant une guerre, en situation de guerre, ça entraîne des conséquences, fatales pour l'individu.
Oui.
Ne pas obéir aux ordres, ça entraîne le tribunal, puis la peine de mort. Donc, sacrifier la morale ou se sacrifier au nom de la morale. Voici la question qui a inauguré la tradition philosophique occidentale, la question de Socrate.
Oui.
Il s'est sacrifié au nom de ses convictions morales.
Quelqu'un qui a eu à faire face à une question de morale comme ça, je pense que vous aviez un livre ici qui en parle, c'est celui qui a fait exploser la bombe durant la Deuxième Guerre mondiale au Japon sur Hiroshima. Ça a été très discuté, ça aussi. Ensuite, la responsabilité morale de cette personne-là?
Non, c'est lui-même. C'est lui-même, Claude Eterly, qui n'a pas pu assumer la
conséquence de son acte.
Les conséquences de son acte.
Oui.
Et il a déclaré comme une guerre morale aux États-Unis d'Amérique.
Oui.
Il se comportait en délinquant et il le faisait exprès. Tout au contraire, le système, la propagande essayait de le couvrir de gloire et de le présenter en tant qu'héros, que quelqu'un dont les efforts ont mis fin à la guerre. Donc, il n'était pas d'accord avec ça. Il s'opposait au système par toutes sortes de petits gestes de résistance au système. Et Günther Anders, il est entré en correspondance avec lui. C'est une correspondance très intéressante. Günther Anders, il lui a dit, moi je suis penseur, je suis philosophe, je suis bon journaliste.
Günther Anders, pour ramener les gens, là, c'est l'ancien, le premier mari de Hannah Arendt.
Oui,
c'est
celui
ça?
qui a rédigé deux lettres ouvertes à Klaus Eichmann.
Oui, voilà.
Donc, ce sont deux exemples opposés. Eichmann, un bureaucrate parfait, qui a commis un crime de guerre ou des crimes de guerre. Et l'autre, Claude Eterly, lui-même, il a commis un crime de guerre. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas jugé, ce n'est pas considéré comme un crime de guerre, hein, l'attaque sur Hiroshima et Nagasaki.
Non, tout à fait, tout à fait. Et pourtant, il a tué aussi des milliers de personnes. Là.
C'est ça.
Sinon des millions.
C'est une autre question. L'histoire, ce sont les vainqueurs qui vont écrire l'histoire,
ouais.
C'est ça. Mais il a compris et il n'a pas pu assumer les conséquences. Il s'est trouvé coupable. Il ne voulait pas que le système le débarrasse, pour ainsi dire, de ce sentiment de culpabilité. Et là, Günther Anders l'a rejoint dans cette correspondance, il dit ben, « on pense dans la même direction, je vous
Tout
soutiens ». Et c'est en 1959 que Günther Anders il a esquissé
déjà
la théorie de la banalité du mal.
On va y revenir parce qu'on doit faire une petite pause pour permettre à Sekaya de passer les publicités de la station ainsi que les quelques publicités. Et on va revenir ensuite avec cette citation-là. Puis il y a David aussi qui va nous faire quelques citations sur Hannah Arendt. On vous revient dans quelques minutes.
Tu rêves, tu marches sur le soleil brûlant. Tu veux trop fort dormir dans un miroir. devenir un dieu en cloud. La 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 la. Tu te rapportes, tu déguises en cauchemar, tu craches en l'air et tu bouges pas. Des haches, des pelles, tout dans ton confort. La maison, c'est un mal de vent. La 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 la. Version toi-même, qui est pure de ton venu d'ailleurs. Des fois, des bords, tournant dans l'estomac, comme un outil, comme un sauveur. La la.
Alors, on est de retour. David, notre hôte et notre libraire, est avec nous. Il va nous faire quelques citations donc, de Hannah Arendt.
Oui, bonsoir Catherine.
Bonsoir David.
Alors, ça va bien, oui.
Oui. Oui.
Alors, ben oui, c'est ça, j'ai quelques petites citations de Hannah Arendt qui viennent plutôt de quelques-uns de ses bouquins. Et je vous les lance comme ça.
Oui, vas-y.
Tout pêle-mêle.
Oui.
Alors, parfait. Alors, la première, c'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal. Alors ça résume bien ce que tu disais depuis tantôt.
Oui.
Ça, on trouve ça dans le troisième tome du système totalitaire. Ensuite, la liberté d'opinion est une farce si l'information sur les faits n'est pas garantie.
Ah.
Et si ce ne sont pas les faits eux-mêmes qui font l'objet d'un débat. Ça, évidemment.
C'est très contemporain.
C'est
hein,
très, très contemporain. On s'entend tout à fait. Et ça, on trouve ça dans la crise de la culture.
Ah oui.
Puis une troisième qui n'est pas exactement liée à notre sujet de ce soir, mais que je trouvais trop bonne pour passer sous silence. C'est tiré du mensonge à la violence. Et ça va comme suit. Le tiers-monde n'est pas une réalité, mais une idéologie.
Oh! Ça, c'est vraiment une citation sur laquelle on peut réfléchir longuement.
Oui, absolument. Alors, une idéologie, le tiers-monde. Et oui, on serait porté à le croire en y réfléchissant bien.
Oui.
Et puis, j'en ai une toute petite. C'est ça, tantôt, je parcourais un peu les trucs d'Arendt, puis ça m'a refait penser à Milgram, mais d'ailleurs...
L'expérience de Milgram, tu peux nous résumer un petit peu ce que c'est?
Oui, je peux faire ça rapidement. Milgram, professeur d'université, je n'arrive plus à me souvenir laquelle. Oui, un Américain, en tout cas, peu importe laquelle.
C'est sur l'obéissance. Il a fait des exercices sur l'obéissance. Hein?
Oui, exactement. Alors, Milgram, voulant tester la faculté d'obéissance de ses sujets, a invité comme ça, par l'entremise des journaux, certains cobayes, en leur disant, venez, on fait une expérience sur l'apprentissage et l'apprentissage avec le châtiment. Donc, on veut voir si le châtiment aide à retenir, aide la mémoire, justement, à ne pas oublier des choses. Alors, c'était facile. On avait un chapeau piégé, en fait. C'est certain que... En fait, il y avait un comédien et le cobaye qu'on étudiait. Et le cobaye ne pouvait que piger le questionneur. La catégorie questionneur plutôt que questionneur et répondeur. Alors, le comédien était inévitablement le répondeur, faisait semblant de recevoir, lui, des décharges électriques, mimait la douleur.
C'est que s'il se trompait dans ses réponses,
il recevait une décharge. Voilà. Si ma mémoire est bonne, il y a un bout de temps que j'ai lu ça, mais c'était de 15 en 15 volts, la charge toujours croissante, etc. Et on lui nommait une couple de mots, il devait répondre la bonne association. S'il ne l'avait pas, recevait une décharge. Et c'est ça, on allait jusqu'à une décharge. Je ne sais pas si c'est létal, on a des scientifiques dans la salle. C'est létal, 450
volts. Ah oui, on a une réponse ici, oui.
Mais ça a bloqué à 450, si ma mémoire est bonne. En tout cas, peu importe. Ouais. Une décharge qui ne fait pas du bien. Donc, 450 volts, il y a 18 variantes à l'expérience 1000 grammes, ou peut-être un peu plus avec une gravité toute différente chaque fois. Mais en tout cas, la plus connue, c'est celle que la victime n'est pas dans la même salle que l'interrogateur. L'interrogateur obéit aux pressions de l'homme en chemise blanche, le scientifique, le garant, le boss, etc. Et c'est ça, comme disait tantôt Émile, ce n'est pas... Ah non, c'est pas Émile qui disait ça, c'était Milgram, pardon. C'est ça. En fait, on n'obéit pas... voyons, on ne questionne pas la moralité de l'ordre qu'on reçoit, mais c'est l'image de l'autorité qui fait qu'on obéit ou pas.
C'est ça. Donc, il a été prouvé que face à l'autorité, la plupart des gens étaient prêts à donner des décharges létales.
À donner des décharges létales, voilà. Et parfois même, ça c'est une des variantes Milgram, parfois même jusqu'à 3 fois de suite, la décharge maximale. Alors, c'est pas gentil.
Si tu voulais nous lire une citation de cette expérience-là.
Rapidement, c'est dans une lettre que Milgram a écrite tout de suite après la première série d'expériences. Alors, les résultats sont terrifiants et déprimants. Ils suggèrent que la nature humaine, ou plus précisément le type de personnalité produit par la société américaine, ne peut être considéré comme mettant ses citoyens à l'abri, de la brutalité et de traitements inhumains commandés par une autorité malveillante. Une proportion substantielle de gens fait ce qu'on lui demande de faire, quel que soit le contenu de l'acte, sans tourment de conscience, dès lors qu'ils perçoivent que l'ordre émane d'une autorité légitime.
Voilà.
Voilà. Alors, le Canada n'est pas très loin des États-Unis.
Merci, David. On va revenir avec Émile, qui nous parlait d'une citation de la correspondance qu'il a eue avec le pilote d'avion de Hiroshima. Prends le temps de t'asseoir, Émile. Donc, c'est bien Günther Anders. Qui a eu une correspondance écrite avec le pilote d'avion.
Quote Italy, oui.
Voilà, qui a fait ton...
Maintenant, je suis sur la bonne citation parce que avant, là, j'ai un petit peu... je me suis perdu dans l'autre livre.
Oui.
Bon. Alors, Claude Italy est à l'hôpital. Mm-hmm. Et il faut que quelqu'un signe pour que quelqu'un garantisse pour qu'il s'en sorte. Et il n'y a que son frère qui est autorisé de faire ça, mais son frère refuse.
Ah bon?
Oui. Parce qu'il n'est pas du tout d'accord avec le comportement de Claude Italy.
D'accord.
Il a honte de son frère. Et là, Günther Anders essaye d'expliquer à Claude Italy le comportement de son frère. Il comme s'il lui disait ne lui en veux pas,
oui.
Parce que c'est un homme ordinaire.
Ah oui.
Et voici, on voit comme esquissé une théorie qui sera développée quelques années plus tard par son ancienne épouse, Anna Arendt. Voici. Je suis certain que ton frère n'est pas mauvais du tout, comme D'ailleurs, je rajoute là que Hannah Arendt, elle dit dans son livre, Eichmann, il n'était pas mauvais.
Tout à fait.
Il était même un bon ami, un bon père de famille, etc. Il n'était pas mauvais. Il était tout simplement stupide. Alors, je suis certain que ton frère n'est pas mauvais du tout, qu'il est un homme ordinaire et gentil. Il a probablement peur d'avoir affaire à un homme qui, au lieu de suivre aveuglément les principes répandus par les médias, suit sa conscience. Ne pas être dans la moyenne a toujours été considéré par les gens moyens, même les plus décents, comme une trahison. L'histoire de la religion et de la philosophie est remplie de reproches faits par des gens plus ou moins gentils, plus ou moins moyens, à l'encontre de ceux qui essaient de garder les mains propres ou tentent de les nettoyer. Rappelle-toi ce que je t'avais écrit sur les martyrs. Nous devons essayer de comprendre les gens moyens, bien que leur incapacité à nous comprendre vienne précisément du fait qu'ils sont moyens. Donc, Eichmann...
Ça ressemble beaucoup, effectivement, à la théorie de Hannah Arendt.
Oui, c'était tout simplement un homme moyen, un homme qui n'était pas capable de concevoir et même de percevoir l'entreprise à laquelle il participait. Et il n'a pas pu comprendre sa culpabilité. Il est mort sans avoir compris pourquoi. Pourquoi son fils non plus. Donc l'obéissance, c'est à la source du mal dans le monde contemporain. C'est ça, c'est ce que nous suggère un arrêt. L'obéissance aveugle.
Voilà.
À l'autorité. C'est à la source, à la source du mal. C'est ça la banalité du mal, en fait. Cette obéissance des gens ordinaires, des gens moyens, qui sont peut-être doux, qui sont gentils, qui sont bons, mais qui sont capables de commettre les pires crimes contre l'humanité.
C'est une réflexion intéressante à refaire en ce moment même où on a vu défiler à la commission Charbonneau ce printemps toute une série de personnes qui ont impunément volé le bien public. Et il y a deux personnes dans Le Devoir qui ont écrit des articles, justement, qui ont fait une comparaison entre la commission Charbonneau et la banalité du mal. Je vous les remets en mémoire, si vous ne l'aviez pas lu à l'époque, ça a été paru le 7 juillet. Un article de David Roberge, qui est avocat, et un article de Fabien Torres, qui est professeur de sociologie au Collège Lionel Groulx, qui font un parallèle entre donc la banalité du mal et ce qui se passe à la commission Charbonneau. Et moi-même, j'ai fait une petite réflexion sur le sujet. Je vous la lis très, très brièvement. Hannah Arendt nous dit qu'il est dans la nature même du totalitarisme, et peut-être de la bureaucratie, de transformer les hommes en fonctionnaires, en rouages administratifs, et ainsi de les déshumaniser. Le phénomène politique connu sous le nom de bureaucratie, c'est le règne de personne. Or, durant la dernière année, on a vu défiler à la commission Charbonneau des maires, des ingénieurs, des fonctionnaires, des organisateurs politiques qui se sont tous présentés comme des rouages d'un système dont ils ignoraient le mal. La juge Charbonneau leur a parfois demandé s'ils étaient idiots, s'ils souffraient d'aveuglement volontaire ou s'ils niaient la réalité de leurs actes. « Non, ont-ils tous clamé d'une même voix, nous sommes des victimes. » Or, devant ce spectacle désolant, voyant le nombre de participants à ce système de corruption grossir de jour en jour, et on n'en a pas fini parce que la commission Charbonneau continue et on va en voir beaucoup d'autres venir à la barre, il a fallu admettre que tout le monde, à partir du plus bas échelon jusqu'au plus élevé, savait et que personne n'a rien fait. Comment expliquer que tant de gens semblent s'être laissés entraîner dans les stratagèmes de l'attribution de contrats publics au Québec? Ce qui fait la force d'un système, c'est que plus le nombre de personnes impliquées est élevé, plus il est difficile de ne pas y participer et même de le dénoncer. Car si tous sont coupables, en fait, personne ne l'est. Alors, on peut se laisser sur cette réflexion-là.
Oui.
Merci beaucoup, Émile, d'être venu participer et de nous avoir parlé de Hannah Arendt et de son mari.
C'était son premier...
Son premier mari?
Oui, c'était son premier mari. Ils ont rompu assez tôt, en fait. Celui, dans le film, c'était son second. Son second et son dernier mari.
Voilà.
Mais il y avait comme un soupçon dans le film que son grand amour était le grand philosophe Heidegger.
Oui, oui, mais ça c'est toute une autre histoire.
Oui, et il nous a donné la clé de comprendre le film, de comprendre les enjeux en disant que nous, on ne pense pas pour connaître le monde, on pense tout simplement parce qu'on est des êtres pensants.
C'est ça,
Heidegger. Mais bon, c'est une autre histoire.
C'est une autre histoire et ouais. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Je termine en disant, s'il y a des gens qui veulent aller plus loin dans cette réflexion-là, il y a un livre qui s'appelle « Responsabilité et jugement » qui a été publié en 2003 et qui réunit des conférences, des discours et des essais écrits en anglais par Anna Arendt. Alors, on fait une pause musicale et on va parler ensuite de planète et de science-fiction.
Space, a final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its 5-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before.
Ça finirait. Vous l'aurez sans doute reconnu, c'était le thème qui introduisait la télésérie Star Trek. Alors moi, quand j'étais jeune, on écoutait Star Trek en revenant d'école en après-midi, probablement pas toi, Simon. Et on croyait que la colonisation d'autres planètes, ben, ça appartenait à un futur proche. On pensait que ça allait se passer presque avant l'an 2000. On est rendu en 2013. Et c'est un sujet qui est encore très, très dans l'actualité et c'est même revenu dans l'actualité dernièrement. Il y a la NASA qui parle d'une installation permanente sur la Lune. Il y en a qui parlent d'une installation même sur Mars avec le petit robot qui se promène. Il y a un projet de télé-réalité. Bref, cher Simon, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on recommence à parler comme ça tout à coup d'une colonisation de Mars?
Ben, allô Catherine, pour commencer.
Ben oui, bonjour Simon.
je pense que il y a plusieurs facteurs en fait qui font qu'on n'en a pas parlé pendant des années, puis qui font maintenant, parce que ces facteurs-là sont plus vraiment là, que maintenant on commence à en parler. Il y a aussi le fait que, bon, pour un gouvernement, parce que là on parle toujours de gouvernement, c'est eux qui décident un peu de ce qu'on va faire avec la colonisation spatiale, mais pour eux, l'intérêt économique... prime toujours, en général. Fait que là, on est comme à un moment où la crise énergétique, puis tout ça, fait qu'on commence à envisager des possibilités autres qu'épuiser, même si on le fait quand même, là, épuiser les ressources de la Terre. Donc ça, c'est un intérêt qui est visible présentement, principalement du gouvernement américain, là, d'aller ailleurs, particulièrement sur la Lune. Il y a aussi, évidemment, le fait que le privé soit maintenant un peu plus installé dans la conquête spatiale, que des trucs comme SpaceX, puis Virgin, le truc de Virgin, la compagnie de...
téléphone?
Oui, de téléphone, mais qui est aussi dans les disques, tout ça, là, la compagnie d'édition en particulier.
Ils investissent dans la recherche spatiale?
Le patron commence à faire un projet de tourisme spatial, qui est déjà bien commencé. Là, je pense que la fusée ou le vaisseau, appelons-le le vaisseau, parce que je ne sais pas vraiment exactement de quel fonctionnement il va avoir lieu, là, mais c'est déjà quand même assez avancé. Mais on pense qu'ils vont pouvoir amener des touristes avec Virgin très, très bientôt dans l'espace.
Okay.
Donc, cet intérêt-là, le privé qui commence à s'intéresser aussi à l'aéronautique, ben ça fait à l'aérospatiale, en fait. Fait que, bon, les gouvernements se sentent un peu plus impliqués parce qu'ils ne sont pas tout seuls dans la gamique, un peu. Appelons-le ça gamique. Il y a aussi, bien évidemment, la curiosité scientifique. On est rendu là un peu. On envoie des sondes, mais il n'y a jamais rien comme être là, en fait. Puis il y a comme en science, il y a un truc qu'on appelle en anglais le serendipity, qui est un peu les découvertes par le hasard, mm-hmm. et non pas un film plate qui est une comédie romantique que je me rappelle avoir déjà vu. Mais justement, si on envoie des humains sur la planète en tant que tel, on se donne la chance, en fait, de faire des découvertes qui seraient dues au hasard. Tandis qu'un robot, on peut en faire des découvertes, mais par hasard, mais c'est beaucoup moins probable, parce que la mission est tellement précise, le robot fait quelques manœuvres, donc mm-hmm. il peut juste trouver, en fait, ce qu'il cherche déjà. On se donne moins de liberté qu'en envoyant des humains. Donc,
est-ce que tu peux nous parler des différents scénarios qui existent en ce moment, que ce soit loufoque ou pas, là? Qu'est-ce qui existe sur la table?
Bien, les moins loufoques, ce serait par exemple le projet américain. Bon, c'est un projet américain, mais en même temps, c'est un projet qui est international.
C'est la NASA, en fait?
Oui, la NASA. Mais maintenant, tous ces projets-là, en fait, sont tous au caractère international. Il n'y a personne qui peut s'engager maintenant à envoyer juste son pays à lui, envoyer des gens sur la Lune. Même sur la Lune, ça va être un projet probablement international. Parce qu'il n'y a plus d'espèce de mouvement de fureur patriotique et scientifique que les années 60 ont amené avec aussi la guerre froide. Là. Donc, on n'est pas vraiment dans ce contexte-là présentement, même si on l'a un peu. Donc ça risque d'être le projet. Donc, Obama, en mai, a parlé d'envoyer quelqu'un sur Mars d'ici 2025 ou 2022, je pense.
Est-ce que c'est plausible?
Bien, c'est plausible dans la mesure où il faudrait vraiment se donner à fond dans le projet. Sauf que ces 10 ans, 11 ans-là maintenant, en tout cas, parlons d'une dizaine d'années, bien, en 10 ans, il peut s'en passer des choses. Là.
Quelles sont les technologies qu'on a aujourd'hui qu'on n'avait pas il y a 10 ans?
Probablement... premièrement, justement, le fait que le privé soit un peu installé dans le domaine, ça fait que, évidemment, ces compagnies privées-là n'ont pas le même mandat qu'un pays ou qu'un organisme venant du public. Donc, pour eux, le fait que d'assurer la sécurité ultime de la mission et des astronautes, donc ça, ils ont moins ça. Les mesures de sécurité sont moins présentes un peu.
C'est pas tant qu'on a plus de technologies, c'est qu'on...
On peut être un peu plus wild avec nos technologies. C'est ça. On peut se permettre d'être un peu moins sur-sécuritaire pouvoir justement augmenter l'efficacité en termes... Parce qu'on parle toujours d'argent ici. Fait que si on peut faire la même chose avec moins d'argent... C'est qu'il y a évidemment des percées technologiques qui ont été faites, mais sont encouragées par le fait que, justement, on se donne un peu moins de temps. Il y a des barèmes, des contrats à respecter. Donc, souvent, le stress... En fait, j'ai une citation d'un de mes profs universitaires à l'époque. C'est sous pression que le carbone devient diamant.
Oh!
pour une compagnie, ben justement, ça encourage justement à trouver des technologies ou en tout cas à simplifier les technologies pour qu'ils coûtent moins cher puis qu'ils soient aussi plus efficaces.
Et quel est l'intérêt de ces compagnies-là?
Ben,
qu'est-ce que ça leur donne d'envoyer des gens sur la Lune ou sur Mars?
Ben, il y a deux intérêts. Là, justement, avoir un contrat, peu importe ce qu'on fait avec le contrat, si on a un contrat, on est content. Donc, pour SpaceX, par exemple, c'est d'envoyer du cargo sur la Station spatiale internationale. Donc, pas d'envoyer des humains nécessairement parce que les humains, eux, passent par le chemin russe.
Okay.
Mais pour les voyages humains, par exemple, quand Chris Hadfield est revenu, c'est un engin russe qui l'a ramené.
Oui.
Mais pour envoyer du cargo, donc envoyer de l'équipement, de la nourriture, ramener les déchets produits dans la station aussi. Fait que,
ça, c'est payant pour eux.
Ça, c'est payant pour eux parce qu'ils n'ont pas besoin d'assurer la survie d'astronautes durant le voyage spatial. Mm. Si ça ne marche pas, tant pis, on a perdu de l'équipement, mais c'est jamais aussi pire médiatiquement qu'un astronaute est mort. Mm. Fait que pour eux, c'est payant parce qu'il y a des risques, mais il y a beaucoup moins de risques qu'un voyage spatial habité. Puis, c'est ça. Comme par exemple le contrat à SpaceX, je pense que c'est aux alentours de 1,5 milliard pour 3 ou 4 ans. Fait que, ça, pour une compagnie, il n'y a jamais personne qui crache
là-dessus. Ça vaut la peine, très certainement.
Mais il y a aussi un autre intérêt qui est économique pour les compagnies privées et pour les compagnies, les organismes publics. C'est que, par exemple, sur la Lune, on sait qu'il y a potentiellement beaucoup d'hélium-3.
Ah.
L'hélium-3, c'est un élément qui n'est pas fait par les étoiles, qui vient justement de la nucléosynthèse primordiale, quand au moment du Big Bang ou un peu après, quand l'univers était super chaud. Donc, c'est vraiment rare parce que les étoiles, qui sont la plupart des espèces d'usines à éléments chimiques, pour tous les autres éléments ou à peu près, ben, ne fait pas cet élément-là. Donc, on le retrouve un peu sur Terre, mais c'est vraiment minime.
C'est qu'on peut se douter qu'il y a des minerais sans doute très intéressants sur ces planètes-là qu'on n'a pas sur Terre et qui pourraient être utilisés.
C'est ça, l'hélium-3 étant le principal. D'ailleurs, il y a un film qui s'appelle Moon, qui est sorti il y a quelques années, qui était un film avec Sam Rockwell comme acteur. C'est un excellent film de science-fiction, d'ailleurs, qui était un peu la folie que lui avait à être tout seul sur la Lune et à opérer une compagnie d'extraction d'hélium-3.
Ah oui.
Et puis, bon, c'est ça. Bon, le film est beaucoup plus psychologique que technologique, là. Mais c'est vraiment un truc. Ce que j'avais aimé, en fait, du film, c'est que c'est hyper réaliste. C'est que c'est vrai que potentiellement, le fait qu'il y ait de l'hélium-3 sur la Lune pourrait être vraiment un élément déclencheur dans le fait qu'on veut y aller assez rapidement. Parce que si on a, par exemple, une tonne d'hélium-3, l'énergie produite par cette tonne-là, d'hélium-3 dans réaction nucléaire, tout ça, donc, en l'exploitant, ça peut coûter beaucoup. En fait, c'est des dizaines de fois moins cher que pour la même énergie produite par du pétrole.
Ben oui.
Donc, ça devient...
C'est toujours la question énergétique
oui,
aussi qui est
effectivement. Donc, ça, c'est vraiment comme un leitmotiv pour économique, en fait, pour aller sur la Lune, premièrement, mais c'est le premier point de départ vers d'autres planètes et...
J'imagine que le petit robot en ce moment qui est sur Mars, dont je ne me souviens plus le nom, ça doit être une de ses missions, c'est essayer de découvrir des minerais intéressants.
Ben oui, en fait, c'est sûr que l'intérêt primordial, le pitch, c'est curiosité, je pense.
Curiosité.
Le pitch scientifique, au départ, c'est de trouver s'il y a de la vie, donc des bactéries sur Mars, ce qu'ils ont trouvé d'ailleurs.
Mais ça, comme tu dis, c'est le pitch scientifique.
Ouais, ça, c'est, il ne fait pas juste ça. Si c'était juste ça, il fait effectivement aussi la prospection minière un peu, en quelque sorte, ce qui analyse des échantillons, puis bon, ce qui est un non-résultat, on ne trouve pas de vie, ben c'est aussi un résultat quand même. Fait que ce qu'ils trouvent en trouvant pas de vie, c'était déjà bon. La réponse finale à la mission aurait pu être « nous n'avons rien trouvé », mais la somme d'informations qu'ils ont eues aurait été gigantesque quand même.
Et parmi les missions farfelues, qu'est-ce qui existe? J'ai entendu parler d'une télé-réalité. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu de quoi il est question?
Oui, c'est une télé-réalité. En fait, je pense que ce qu'ils veulent, en fait, c'est que les gens s'inscrivent et puis qu'ils aillent faire un tournage, en tout cas, qu'ils seraient suivis lors de leur périple vers Mars et leur potentielle habitation.
Mais c'est pas possible, ça?
Ben, je pense que d'un point de vue légal, ça serait une catastrophe en partant. Je pense qu'ils testent plus le marché qu'autre chose. Ils veulent voir où les gens pourraient... En fait, je pense que s'ils font pas, ils vont quand même faire une télésérie ou une télé-réalité qui va montrer leur entraînement, puis ça va être tout.
Ouais.
Parce que juste de voir l'entraînement de supposés astronautes qui veulent juste pleinement être célèbres, ça serait intéressant.
Ça va être une fiction pure, en fait. Ils vont essayer de reproduire les conditions d'une vie sur Mars dans un désert quelconque et on va suivre ces gens-là qui vont faire semblant d'être sur Mars et ça va faire fonctionner l'imaginaire des gens.
Ça va être love story, mais avec un décor plus grandiose.
tu m'as amené un petit article ici, très drôle, sur une autre histoire assez farfelue.
Oui, ben ça, c'est un groupe qui a essayé de tester le marché pour voir qui serait prêt à aller sur Mars pendant, avec un aller simple. Donc, on va sur Mars, on essaie d'établir une colonie humaine sur Mars, mais on n'a pas vraiment le moyen, à part par nous-mêmes, de revenir. Donc, ça prend des gens ambitieux. Et puis, il y a beaucoup de monde ambitieux, apparemment, parce qu'il y a au-dessus de 200 000 personnes qui ont déjà donné leur nom. Donc, quelques Canadiens, mais majoritairement, c'est des Américains pour 24 %. Ensuite, des Indiens à 10 % et des Chinois à 6 %. Donc, je ne sais pas ce que ça indique, point de vue tempérament national, mais il y a vraiment des gens qui sont prêts à aller sur Mars présentement. Donc,
il y a 200 000 personnes qui sont prêtes à partir demain, là.
Ce serait organisé ce serait prévu, en fait, pour 2023. Donc,
ah, OK.
Ça laisse quand même un petit 10 ans pour y repenser, mais normalement, l'entraînement débutera en 2015. Donc, il y aurait... plusieurs sélections, j'imagine, là, parce que probablement que sur les 200 000 personnes, il n'y a pas 200 000 personnes qui ont donné leur nom et qui ont une vision parfaite. Donc, ça permettrait déjà d'en éliminer pas mal. Puis, en fait, c'est ça, ils vont essayer de voir quels seraient environ les 40 meilleurs candidats pour pouvoir s'entraîner. Donc, il n'y aura pas de télé-réalité dans ce cas-là, mais c'est...
Et ça, c'est des fonds privés, j'imagine.
C'est assez communautaire. En fait, je pense qu'ils ont l'air de dire que c'est à but non lucratif. C'est en fait... je pense qu'ils ramassent de l'argent, mais l'article dans la presse ne l'indiquait pas, mais ça me laissait penser un peu à un Kickstarter. Ils ramassent de l'argent sur Internet pour voir si le projet est réalisable. Je ne sais pas si ça va se faire, mais bon, on en saura peut-être plus en 2015 quand ils ont trouvé leurs 40 candidats.
Toi, Simon, tu es astrophysicien. Donc, tu étudies l'astronomie, les planètes. Pour toi, jusqu'à quel point c'est pensable des gens qui vivent sur Mars?
C'est pensable dans l'optique où on va avoir développé les moyens pour ce qu'on appelle dans le jargon « terraformer ». Donc, faire en sorte que la planète Mars devienne un environnement habitable par l'humain.
Et tu penses que c'est possible?
Présentement, on sait qu'il y a beaucoup d'oxygène sur Mars, enfoui un peu dans les... Faut l'extraire, il n'y a pas d'atmosphère. Donc, la température est à 68 degrés Celsius, Kelvin plutôt, donc c'est moins 220 quelques degrés.
Ça semble pas très sympathique. Donc c'est
pas très hospitalier. Donc, ouais. faut quand même trouver une façon d'avoir une biologie qui se peut, parce qu'on peut pas... En fait, si on n'a pas de ticket de retour, il faut pouvoir penser se nourrir pour le reste de notre vie sur Mars. Donc, ça dépasse de loin l'objectif d'une mission scientifique où on resterait pendant quelques semaines pour faire des expériences, un peu comme on faisait à l'époque sur la Lune, tu sais, des missions de 4-5 jours, puis on revient. Mais là, c'est un an et demi,
oui.
L'aller-retour sur Mars, parce qu'il faut y aller au moment où Mars est au plus proche, attendre 6 mois avant que Mars revienne au plus proche pour repartir. Fait que c'est au minimum un an et demi comme mission, même presque 2 ans. Fait que, il faut au moins se nourrir pendant 2 ans. Donc, c'est vraiment pas évident. Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes qu'il va falloir régler si on va être sur Mars d'ici 2023.
Mais il y a quand même des découvertes récentes qu'on a faites là-dessus. Moi, par exemple, j'ai été beaucoup impressionnée par la manière dont on a réussi à faire de la viande synthétique. On a vu ça dans les nouvelles il y a quelques semaines. Je ne sais pas si ça dit quelque chose.
Oui, j'ai vu.
Ça, j'imagine que c'est des facilités pour un voyage...
On peut faire de la viande synthétique, mais encore faut-il avoir le moyen de faire de la viande synthétique sur Mars.
Oui.
Donc, si le coût pour amener tout ce qu'il nous faut pour produire en fait, n'est pas rentable, c'est peut-être mieux d'amener juste de la viande directement de la Terre puis de la conserver. À la limite, on la sèche ou on la sale. Mais si c'est rentable d'amener le matériel pour créer la viande synthétique sur Mars, peut-être faisons-le. C'est sûrement moins bon, mais... Il n'y aura pas beaucoup de barbecue extérieur ni de pool party sur Mars. Il faut pouvoir s'en tenir à... Je pense que ça va être assez sévère et austère comme vie là-bas.
On me fait des signes qu'il faut faire une nouvelle pause. On va arrêter vraiment quelques secondes, puis on reprend tout de suite pour conclure cette entrevue-là. Alors, on est de retour, Simon, pour conclure rapidement cette entrevue. Donc, tu me disais que toi, tu voyais une possibilité d'une colonie terrienne sur Mars. Donc, un jour, les terriens seront martiens.
c'est le début, en fait. Il faut penser comme ça parce que si... en fait, moi, c'est mon instinct scientifique là, de toujours vouloir aller plus loin. Mais si on le fait pas, en fait... c'est le premier pas, c'est un pas petit dans l'histoire si on se compare à Star Trek, c'est un pas très petit, en fait. Mais faut pas être trop optimiste non plus vis-à-vis des données temporelles. 2023, je trouve que, en tout cas, c'est déjà...
C'est rapide,
C'est dans 10 ans.
Ben oui,
donc,
c'est rapide.
Faut quand même être...
Si on voulait être réaliste, là, un siècle?
Un siècle pour Mars, je pense que c'est trop, en fait. Je pense que ça va être plus proche que ça. J'espère bien le voir de mon vivant. Donc, je ne sais pas exactement l'espérance de vie canadienne chez les mâles de ma condition, mais d'ici, mettons, 50 ans, ce serait déjà une belle réalisation. Mais peut-être que ça va être avant, en fait. Ça va vraiment être dicté par le climat socio-économique sur Terre.
Oui, ça, c'est sûr, c'est toujours l'argent. Et en terminant, toi, Simon, est-ce que tu irais sur Mars?
J'irais. Mais uniquement si on m'assurait que je vais pouvoir bien vivre là-bas. Donc, je suis trop cosy pour y aller là. Je ne serais pas des 200 000 personnes qui veulent y aller pour 2023. J'irais peut-être à ma retraite.
Ah, tiens, c'est un bel endroit pour passer sa retraite. Merci beaucoup, Simon. On va faire une pause et on va revenir pour la conclusion. Musique.
Are you such a dreamer to put the world to rights? I stay home forever, but tune to always makes a fire.
Alors, c'était la pièce 2 plus 2 égale 5 de Radiohead. C'était la pièce musicale Le choix du libraire du mois. Et en parlant de la librairie, il y a des événements à la librairie Saint-Jean-Baptiste de manière régulière. Et il y a le 12 septembre, il y a eu pour les auditeurs de CKIA, parce que là, on est déjà rendu le 24 dans ce cas-là, donc le lancement d'une revue qui s'appelle la revue Milieu. C'est une revue qui s'intéresse aux manières d'habiter le monde, aux relations qui tissent la trame de nos vécus par opposition à la gestion de plus en plus déterritorialisée de l'espace. Alors, c'est une revue qui donne la parole à des proches du milieu, à ceux qui ont le souci de mieux habiter le monde, que ce soit par la pensée, l'implication sociale active, les arts, etc. Et au menu du premier numéro, il y a un dossier sur les milieux urbains composé de textes libres de professeurs de l'Université Laval, Patrick Turmel et Dali Giroux. Il y a une entrevue avec François Saillant du Frappru sur le droit au logement et une traduction inédite de Jane Addams. L'œil ne sera pas non plus en reste avec les œuvres de Fred Jourdain et de Maude Demers qui traquent dans les vieux quartiers craquelés des beautés insoupçonnées. Si vous voulez en savoir plus sur cette revue, je vous donne l'adresse revue-milieu avec un x.org. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Alors, c'est tout pour cette première émission. Je remercie mon équipe technique, Anaël, à la mise en onde, et Big Nick, qui nous héberge sur Radio Fiat Lux. Merci à David, qui nous accueille à sa librairie. Et mes invités cette semaine, Émile Grigoroff, professeur de philosophie, Simon Richard, étudiant au doctorat en astrophysique. C'est tout. Je vous souhaite un bon mois. Ici, La Voix de la librairie, Québec.
frissons s'envolent derrière le ciel sur la toise corps. Le froid de mes traits m'étonne. Dans le tableau, je suis là-haut, chevauchant l'hirondelle du chant. Dessiner mes amis sur un tapis d'oiseaux, ils s'enchantent et tous sans cœur me scandent. La 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 la.
autant qu'on s'en balance.
To the girl with the mousy hair, till mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Is there life on Mars? It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the lawman beating up the wrong. And the best-selling show is still alive.